Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Podcast is a new radio.
Bon matin et bienvenue dans la saison 3 de Fais-tu frette. Déjà la saison 3. Quand je pense que lorsque j'ai commencé, on me disait que ce concept manquait peut-être un petit peu de profondeur et que je risquais de vite me retrouver à court de sujets, et bah pour le coup, j'en connais qui se sont mis une sacrée bûche dans l'œil. C'est que mine de rien, la culture québécoise est infiniment plus riche que ce que la seule démographie de la province peut laisser penser. La société québécoise, parce que multidimensionnelle, est aussi incroyablement plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer. Alors vous savez quoi les amis, de vous à moi, vous pouvez encore vous attendre à quelques saisons en plus de Fais-tu frette. Mon nom est Jean-Michel Lhomme et avec ce podcast je suis vraiment, mais alors vraiment heureux de vous faire découvrir mon nouveau chez moi, le Québec. Bonne écoute. Dès les premiers épisodes, je ne voulais pas cacher, l'une de mes principales surprises en arrivant à Montréal a été l'existence, l'histoire et la place des communautés autochtones au Québec. Alors quand j'y repense, c'était bien naïf, pour ne pas dire un peu con en fait. Car je savais bien que, bien avant sa soi-disant découverte, le continent américain était peuplé de diverses populations autochtones. Par exemple, je connaissais vaguement, mais de manière assez fidèle je crois, l'histoire des Incas et des Mayas. Je connaissais, mais de manière nettement plus caricaturale, l'histoire des Indiens d'Amérique. Alors forcément, vous ne l'entendez pas en audio, mais quand je dis le mot « indien », je mets de gros guillemets tellement ce terme m'horripile, j'aurais peut-être l'occasion de m'en expliquer. Mais dans mon imaginaire limité, c'était comme si le Québec était un village isolé de toute forme d'histoire, un village peuplé de descendants normands, charentais et autres. Alors évidemment, je me trompais, et puis dans les grandes largeurs en plus. À ma décharge, vous constaterez que jusqu'à récemment encore, les artistes et personnalités québécoises qui traversaient l'Atlantique ne revendiquaient aucune origine autochtone. Étonnant, non ? Bref, j'étais complètement à côté de la plaque. Et mon retour à la réalité s'est fait en deux temps. Un premier temps que je qualifierais de cocasse. Dès notre arrivée, ou quand nous nous rendions en taxi jusqu'à notre future maison de la rive sud, côté de Montréal, mon chauffeur nous a expliqué que nous longions Kanawake, une réserve Mohawk. Voilà, réserve. Voilà un autre mot qui m'horripile pas mal. Là aussi, on s'en expliquera peut-être. Deuxième temps, beaucoup plus dramatique celui-ci. La vraie prise de conscience. C'est le décès de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette. Je vous remets ça en contexte. Avant de mourir, la jeune femme s'est filmée, souffrante et suppliant qu'on lui vienne en aide. Dans cette vidéo, on voit deux infirmières s'amuser de la situation en mettant tous les symptômes de Joyce sur des préjugés raciaux. Elles ne feront rien d'autre que d'en rire, et Joyce mourra quelques minutes après, déclenchant ainsi une vague d'émotions et peut-être un début de prise de conscience. C'est à ce moment-là que je me suis dit que je devais absolument en savoir plus, comprendre, puis via ce modeste podcast, vous raconter ce qui, selon moi, est l'une des principales composantes de la société et de la culture québécoise. Et malheureusement, le Québec ne fait pas exception à la règle. Partout où des peuples sont maltraités, les femmes et les enfants sont les premiers à morfler. Mais si l'histoire des enfants, notamment via les pensionnats autochtones, est assez connue et documentée, en tout cas de plus en plus, celle des femmes autochtones est beaucoup moins connue. Alors cela tombe bien, puisque mon invité du jour, Michèle Audette, est une femme autochtone et militante particulièrement engagée sur la cause des femmes autochtones. C'est aussi aujourd'hui, et vous verrez, c'est la touche d'espérance qui clôt cet édito, l'une des principales représentantes du pays, puisqu'elle siège au Sénat du Canada. Bonjour Madame la Sénatrice.
Coué, coué nabeu, coué à vous.
Comment allez-vous?
Ben là, j'ai une petite boule d'émotion. À chaque fois qu'on parle de Joyce, ça vient me chercher. Puis après ça, le avant et le après, vous m'avez bercé dans comment on peut voir ou vivre ou percevoir l'autre dans mon chez-nous. Alors, ça fait du bien d'avoir une autre lunette.
Et en tout cas, moi, j'espère que vous allez pouvoir m'aider, et j'en suis sûr, vous m'aider à ajuster la mire sur mes lunettes à moi, parce que je suis bien conscient, j'ai dit que j'étais naïf, et malgré 3 ans au Québec, et malgré des émissions, j'ai pu faire une émission à Katia Bacon, notamment, une autre avec Suzy Obomsawin, pour essayer de m'attaquer, d'aborder un petit peu le sujet, mais je suis quand même bien, bien, bien conscient de mon incompétence notoire. Et c'est tellement important d'en savoir plus et de comprendre. Ensemble, j'aimerais juste qu'on revienne un petit peu, qu'on fasse le fil de la chronologie. Alors, on va commencer là où la situation devient carrément critique. On va oublier Jacques Cartier dans d'autres émissions, je lui ai déjà fait son compte. Au fondement de la situation actuelle au Canada, il y a la loi sur les Indiens. Quel horrible nom. La loi sur les Indiens, créée en 1876 et dont une nouvelle version a été adoptée en 1951. Cette loi, c'est elle qui, encore aujourd'hui, définit à peu près tout, structure à peu près tout ce qui est de la vie des communautés autochtones au Québec et au Canada.
En quelques mots, aujourd'hui, ce qu'elle impose à mon être, à mon âme ou à des milliers de gens comme moi, là, c'est j'ai 51 ans au moment où je vous parle, mais aux yeux de la loi et dans son fondement, je n'ai que 17 ans. Donc, toutes les personnes qui sont inscrites en vertu de la loi sur les Indiens au Canada, on nous considère comme des mineurs. Donc, les mineurs, on a un père foncier fiduciaire qui est le ministre des Affaires autochtones ça a changé de nom encore, là, relation avec la couronne, qui est Monsieur Mark Miller, et une mère foncière et fiduciaire responsable là, de nous, qui est la ministre là, Adju, Service Autochtone Canada. Et ça va faire en sorte, comme mineur, ils vont gérer ma santé, mon éducation, mes élections, l'argent qui est attribué, puis les élections, bon, tout le petit espace dans le mot qu'on n'aime pas toutes les deux, dans la réserve. Mmh. Donc, on va nous confiner dans un espace dès l'imposition de cette loi-là. Alors, ça répond à votre qu'est-ce que ça fait aujourd'hui, mais je vous dirais, la racine, là, brièvement, là, je pense que c'est important, elle s'appelait l'Acte pour l'émancipation graduelle des sauvages. C'était le premier nom de cette loi-là pour un peuple nomade dont j'en fais partie, là, les Innus et les autres peuples à travers le Canada. On va nous sédentariser et on va mettre plein de politiques pour tuer l'Indien dans notre corps, notre âme, notre esprit. Tu sais, comme enfant, les pensionnats, les femmes qui vont marier quelqu'un qui n'est pas inscrit en vertu de la loi des sauvages. Il va y avoir plein de stratégies pour nous assimiler et nous faire disparaître et nous infantiliser. Et c'est surtout les femmes autochtones, depuis les tout débuts, jusqu'à aujourd'hui, où on va en payer les coûts, là.
Et j'ai vu ça en suivant votre parcours particulièrement inspirant, et vous l'avez dit, malgré vos origines Innu, il me semble que vous n'avez pas pu grandir en réserve parce que, vous me dites si je dis des bêtises, mais votre maman qui était Inou a eu, excusez-moi pour le terme, le mauvais goût, d'épouser,
non, elle a marié,
d'épouser
homme.
Un homme qui n'était pas autochtone. Donc du coup, ah, toi femme, si tu te maries avec un autochtone, dehors, on veut plus de toi. Si, imaginons que ça avait été l'inverse. Si c'était un homme qui avait marié une non-autochtone, il aurait pu rester dans la réserve.
Et la femme devenait indienne, entre guillemets.
Voilà.
Elle avait un statut de femme indienne, ce qui lui permet de vivre dans la communauté, mais ne parle pas la langue. Donc, ne peut pas enseigner la langue aux enfants. Et nous, notre mère, on va vivre à l'extérieur, va essayer de nous parler Innu, mais le système, le milieu, l'environnement se fait juste en français ou en anglais. Donc, on perd la langue là aussi.
Alors ça, c'est super intéressant. Quand je dis super intéressant, je ne veux pas dire « Georges, m'émerveille, c'est super hein. ». Mais c'est vrai que au départ, quand j'ai découvert la loi sur les Indiens et que j'ai préparé l'émission, je me suis dit « Oh bah encore le vieux système patriarcal qui l'emporte comme partout, un peu comme je le disais dans l'édito, c'est toujours les femmes et les enfants qui morflent ». Mais là, je comprends avec ce que vous dites que ça allait plus loin que ça.
Ah,
il y
oui.
avait vraiment une stratégie de dire « On va faire rentrer dans les communautés autochtones des non-autochtones » pour en gros accélérer l'assimilation, ce qui en gros est la disparition de la culture, enfin des cultures autochtones. C'était beaucoup plus machiavélique que ce que je pensais encore. Je pensais que c'était juste con, mais en fait, non, c'est carrément machiavélique.
L'autre aspect machiavélique, c'est rare que je vais utiliser le terme, là, ça fait du bien de le dire, c'est d'ailleurs dans le rapport de l'enquête nationale sur les femmes et filles autochtones, on dit clairement que dans la loi sur les Indiens, avec les communautés religieuses, on venait de défaire le rôle que les femmes avaient au sein des sociétés. Hein? Moi, je viens de la Mouchouanepi, il n'y a pas de Canada Goose là-bas, tu sais, depuis 10 000 ans, je veux dire, il fait froid. Tu sais, c'est un territoire où on est loin de tout le monde, pas d'Internet. Donc, on est des scientifiques, on est brillants, on est capables de vivre là pendant des millénaires. Mais ça veut dire aussi qu'on est des sociétés très organisées, hommes-femmes, des rôles bien précis. La loi sur les Indiens, le colonialisme, les communautés religieuses vient encourager la violence envers les femmes. On va même mettre ça sur la place publique pour dire t'es un vrai homme, puis on a ramassé des preuves, que c'était bon faire ça. Puis de défaire la femme dans son rôle, puis dans son espace, puis dans ses responsabilités. Et de normaliser la violence envers nous.
Cette loi... La loi sur les Indiens, c'est aussi celle qui crée les réserves, le mot qu'on n'aime pas. Alors, on l'aime pas le mot. Enfin, moi, je le déteste franchement. Enfin, je le trouve tellement inhumain. Voilà, pour faire court. Ceci étant dit, pour ceux qui nous écoutent, j'aimerais bien qu'on leur dise c'est quoi, à quoi ça ressemble une réserve autochtone, parce que ça semble tellement improbable. Déjà, le terme semble tellement improbable. Puis au 21e siècle, en 2023, parler de réserve pour des humains, il y a un truc. Mais j'aimerais bien, à quoi ça ressemble une réserve autochtone aujourd'hui?
Alors moi, je vais dans ma guérison, là, à quoi ça ressemble, puis mon portage de vie, c'est un endroit où je vois pas de délimite, il n'y a pas de
frontière.
Le Vietnam, là où j'habite, là, c'est le fleuve qui est la mer, c'est salé, c'est beau, les vagues, puis en arrière, c'est une forêt. Mais j'imagine Wendake ou Odanak ou Ganawagé qui, eux autres, sont entourés de voisins, voisines de municipalités et de villes. Alors moi, ça va être ça ma vision de c'est quoi mon chez-nous. Et ce n'est plus une réserve, c'est une communauté, ce n'est plus juste une communauté, c'est un territoire où on va rire, on va entendre l'Innu à la radio, on va jouer au bingo en Innu, les mariages, les décès, le potin, les petites chicanes entre nous autres. Mais il y a cette résilience-là, puis cette langue-là qui est vivante. Puis la nourriture, l'odeur, le pain sans rire. Donc ça, pour moi, c'est ma communauté. Puis ma communauté, elle s'exporte, elle se déplace par les artistes, les hommes et les femmes là, qu'on entend beaucoup ces temps-ci, qui est génial. Mais je sais aussi que légalement, par exemple, c'est là où ça fait mal, où là, c'est vraiment là le politiquement correct, excusez-moi mon franglais, où les gouvernements qui vont passer un après l'autre, québécois ou fédéral, canadien, vont dire premier peuple, nation à nation, de gouvernement à gouvernement. Mais la loi s'appelle encore la loi sur les Indiens, ça c'est clair. Et elle nous empêche, dans le petit lot qu'on a, qu'on appelle la réserve de Ouachat-Maliutenan, d'être des adultes, d'avoir 51 ans et plus, et tous ceux et celles qui ont 18 ans et plus, de pouvoir avoir des droits et des responsabilités, comme vous, vous avez. Pourtant, vous n'êtes pas du Québec, là, vous m'avez une belle photo, mais vous avez plus de droits que ben du monde, mais c'est pas pour vous faire sentir mal. Alors, c'est là où ça fait mal. Fait que là, ça redevient pour moi un lieu où on me rappelle que c'est encore la loi qui me dicte mon présent et mon avenir, et je n'ai pas la même capacité, tant dans la gouvernance, dans la culture, dans la protection de la langue, dans l'accès au territoire, tout ça, là, pour dire, hey, je suis capable, je peux décider pour moi et avec moi, puis pour mes 5 enfants. Alors ça, c'est là où ça devient la 3 petits points de réserve.
Ouais, je comprends. C'est fou de se dire que moi qui suis là depuis 3 ans, qui suis un immigrant volontaire, hein, choisi, heureux, mais qui suis là depuis 3 ans, je me retrouve à avoir plus de droits que des gens qui sont nés ici, dont les parents, les arrière-grands-parents et ainsi de suite et tout, sont nés sur ces terres, ont forgé ces terres-là. Il y a quelque chose de complètement lunaire dans cette situation, et tant qu'on est sur des choses lunaires, je remets juste en perspective, hein, le Canada est l'une des plus grandes puissances économiques, politiques au monde, et il me semble avoir vu qu'en 2019 encore, donc au 21e siècle, 56 communautés autochtones n'avaient toujours pas accès à l'eau courante. On commence à aller quand même un petit peu loin dans la... Je sais même pas comment appeler ça, en fait. J'allais dire ségrégation. Je sais pas quel est le bon mot. Je saurais pas mettre le bon mot, tellement ça me semble improbable.
Si on disait peut-être, puis c'est récent pour moi, là, c'est d'ailleurs, je vais faire un discours au Sénat cette semaine sur la violence ou le racisme environnemental. C'est quelque chose que je c'est pas moi qui l'ai inventé, là, puis j'ai fait, hein, on a ça, nous. Et vous parlez de l'eau, et je donne un exemple qu'il y a des communautés au Canada qui ont même pas accès à de l'eau potable. Et tout simplement, ils ont pas d'eau du tout, là. L'eau est contaminée. Et là, c'est là où on vient voir, puis je me dis, mon Dieu. La ségrégation, ça peut être le terme, mais à la racine même des multinationales, des compagnies canadiennes, avec l'État, le gouvernement, les provinces, ont été, puis se sont imposés sans faire fi, sans en faisant fi et aucune considération de ceux et celles qui habitaient là depuis toujours. Même si on les avait mis dans des réserves, là, dans les communautés, reste que l'eau est là, le territoire, la forêt, ainsi de suite. Et là, c'est là où on voit beaucoup d'enfants malades, de l'asthme, de l'eczéma, des problèmes de respiratoires, des cancers qu'on n'a jamais vus, et ainsi de suite. Et là, je me dis, wow, on a été patient pendant longtemps, mais notre voix est pas assez forte. Et là, encore une fois, c'est là où je me dis, ouf, on est au Canada, là. Et ça se passe, là. Mais parce qu'on le voit pas, vous et moi, au quotidien, ben, on n'est pas dérangé par ça. Et là, nous, quand on va le dire haut et fort, ils chiolent encore eux autres.
Ouais, c'est... Je vous conseille, pour ceux qui écoutent ce balado, moi, j'ai lu, j'allais dire dévoré, lu et relu, c'est très rare que je relise des livres, à peu près tous les bouquins de Michel Jean, Inou. Comme vous, qui a écrit, qui décrit très bien de nombreux facteurs sur la vie des communautés autochtones, et notamment de la communauté Innu. Et notamment, moi, ce qui m'a, parmi les choses qui m'ont heurté, il y en a quelques-unes, hein, ce sera un inventaire à la Prévert, comme on dit, ce qui m'a choqué, c'est la sédentarisation forcée. C'est-à-dire que il me semble qu'on a présenté la création de ces réserves, genre, hey, je te fais un cadeau, je te donne un bout de territoire. voilà, et sois sympa, c'est gratuit. Alors qu'en fait, on avait des gens qui étaient des peuples nomades, ou c'est-à-dire que ce que Michel Jean raconte, c'est qu'il y avait vraiment un camp de base d'été et un camp de base d'hiver pour la chasse et tout, dans des conditions d'ailleurs très très rudes, avec un transit entre les deux qui était... Enfin, franchement, quand il est décrit, je m'y vois pas deux secondes. Et du jour au lendemain, et avec une violence extrême, parce qu'on avait décidé que le camp de base d'été, eh ben, on allait le noyer parce qu'on avait besoin de faire une rétention d'eau pour créer notamment Hydro-Québec, cette grande fierté nationale ici au Québec. Mmh. Eh ben, on prend une dame, on lui dit « Ah, au fait, tu retrouves pas ta maison ce soir, parce que là, on est en train de tout noyer, t'as gardé une chambre à l'hôtel, et puis après, tu vas dans une réserve. »
Ouais.
Où t'as pas l'eau courante, où t'as pas tout ça, et où en 2023, bah, on l'a toujours pas. Sédentariser des gens qui sont par nature nomades. Alors, je sais pas si la comparaison est même, mais enfin, aujourd'hui, quand on veut priver un homme de liberté, on le met dans une prison. C'est-à-dire qu'on l'empêche de bouger.
C'est ça.
C'est ouais, le mot de violence, il est quand même, il n'est pas galvaudé pour le coup.
Mais ça, cette image-là, va marquer tous ceux et celles qui ne nous connaissaient pas dans le livre de Michel Jean, et des gens qui étaient très durs puis qui vont venir nous écrire ou nous dire « Ben, ce passage-là m'a fait voir autrement, c'est-à-dire là, je comprends. » Parce qu'il y a eu une image. Et peut-être parce que c'est une Québécoise qui est tombée en amour à notre culture et à notre peuple, qui moi, au début, j'étais comme « Ah, ça fait trop roman, savon. » Mais finalement, j'ai dit « OK, faut que j'écoute Alma, là, faut que j'apprenne à la... » Et elle devient une ambassadrice. Tu sais, une ambassade, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs. Donc, une ambassadrice pour le peuple québécois. Puis, comme Serge Bouchard faisait si bien, un Québécois qui parle à d'autres Québécois. Puis là, je me suis dit, ben merci à ce livre-là. Il va amener une meilleure compréhension.
Et il y a encore du chemin. Parmi ces bouquins, dans ces bouquins, il y a notamment un long passage, enfin quasiment tout un livre dédié, je crois en France s'appelle Maïcan, mais ici au Québec, ça doit être Le vent en parle encore. C'est pas le même titre, où on parle des pensionnats autochtones, puisqu'effectivement, on a beaucoup parlé des enfants, mais c'est beaucoup en actualité. On va pas forcément y revenir, parce que je voudrais qu'on aille sur la partie, c'est-à-dire qui est passée un petit peu en dessous des radars, me semble-t-il, pour moi, c'est la situation des femmes autochtones. Mmh. Et là, c'est intéressant, parce que vous, c'est votre combat, votre engagement, depuis que vous êtes à l'âge adulte, même si j'ai bien compris que selon cette satanée loi, vous ne l'avez jamais atteint, ce qui ne vous empêche pas d'être sénatrice.
Non, mon corps me ressent, mais je ne l'ai pas atteint.
Voilà. Mais vous êtes engagée là-dessus, comme votre maman, je crois. Oui. Pourquoi vous êtes engagée sur cette cause-là, et pourquoi est-ce que c'était nécessaire de s'engager?
Avant, j'aurais répondu parce que j'ai été confrontée à une discrimination, puis ça m'a... J'étais fâchée et j'ai transféré ma rage en action. Et récemment, dans les dernières années, j'ai fait « Hein? J'aurais pu choisir une autre vie si j'avais eu toutes les chances égales ou la qualité de vie de ou la même chose que l'autre. » Je suis née quasiment dans le train, dans le ventre de ma mère. Là, j'ai décidé de sortir... entre Sept-Îles et Chefferville. Puis dans ce train-là, en 71 jusqu'en 1989, la ségrégation existait. Il y avait un wagon qu'on appelait pour les sauvages, puis l'autre pour les blancs. C'était comme ça. Alors jusqu'en 89, moi j'étais haïssable, j'allais chez les blancs pour me faire ramasser. Et j'ai normalisé ça. Puis ça s'est imposé à mon premier souffle de vie. Puis après ça, l'agression, les agressions sexuelles, l'agression physique, la méchanceté d'un bord parce que ma mère a marié un non-indien. Puis du côté des Québécois à Montréal, « Hein! C'est pas une Asiatique, c'est une vraie Indienne, maman! » Tu sais, c'était... Et de vivre là-dedans, ben finalement, ça s'est imposé à mon mode de vie. Très, 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 très tôt. Alors, le jour où j'ai pensé vivre ma première expérience de racisme puis de discrimination, parce qu'une blanche qui avait marié un gars de chez nous me dit « Je suis plus indienne que toi, Michel, puis mes enfants. » Fait qu'eux autres vont aller à l'école, mais pas toi. Je suis venue fâchée. Mais finalement, aujourd'hui, je suis capable de dire « Ça s'impose à nous, et j'ai décidé de cohabiter avec ça. Plus me rendre malade, mais de cohabiter avec ça, puis de me motiver quand je me lève le matin. Bon, ben, on continue.
Je reviens juste sur un détail. Le train, la ségrégation dans le train, on est dans les années 70?
Jusqu'en 89, proche de 90, là.
Souvenez-vous, vous qui nous écoutez toujours, enfin, moi, ça me cause l'une des années les plus importantes de ma vie, celle où j'ai commencé à parler dans un micro pour la toute première fois, c'était en 1987.
OK.
Et j'étais pas bien vieux. Je n'étais pas majeur non plus, mais moi, c'est pas la loi, c'était juste mon état civil. mais c'est fou. J'ai commencé à parler dans un micro en 87. En France, forcément, un pays très marqué par la Seconde Guerre mondiale, on a connu les camps, très proche de chez moi, de mon petit village, il y a le village de Radour-sur-Glane, qui est un village martyr, qui a été entièrement, voilà, enfin, un pays très très marqué. Ça semble totalement irréel de se dire que, alors certes, à quelques milliers de kilomètres, mais dans une société, dans un peuple qui nous a toujours semblé aussi proche, on parlait déjà du Québec, enfin, il y avait déjà des allers-retours, dire moi tous les samedis soirs Michel Drucker et j'ai l'impression que Robert Charlebois il dormait chez Michel Drucker tellement il était là tout le temps. Voilà les artistes québécois étaient là. Ça semble dingue de se dire qu'au même moment il y avait ce type de ségrégation qui était en cours. D'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque moi je manifestais pas parce que j'étais jeune et quand je manifestais c'était plutôt pour avoir une sucrerie auquel j'avais pas droit. Mais on parlait beaucoup de l'Afrique du Sud. De l'apartheid en Afrique du Sud. Jamais, au grand jamais, on m'a parlé d'une chose pareille au Québec ou au Canada.
Mm-hmm.
Et pourtant, ça existait.
Et l'apartheid va utiliser la loi sur les Indiens pour influencer son mouvement puis sa façon de faire. La loi sur les Indiens du Canada, là. Mais c'est comme si on pouvait pas en parler. Donc, l'école, on va nourrir des gens, on va nourrir des générations, on va nous nourrir, nous, que c'est normal. Je le dis entre guillemets, le mot normal, mais c'est pour ça que je suis contente d'entendre Shawit Kanen, d'entendre Katia Rock, d'entendre Mathieu qui vont se lever, puis des fois, ils sont courageux de dire ces mots-là, mais en même temps, c'est vrai, on est délicat dans notre colère.
Oui, et c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui perdurent. Je l'ai déjà dit, je crois, dans un précédent balado, donc vous m'excuserez pour la redite, mais après tout, la réputation, c'est le nerf de la guerre, hein, le nerf de l'éducation et de la communication. Mmh. Ma fille, ma petite dernière, en tout cas, va à l'école municipale ici. Maintenant, elle est rentrée au secondaire. Donc, on est à Saint-Constant, Rive-Sud. Nos voisins les plus immédiats, c'est vraiment Kanawake.
Ouais.
Kanawake, la communauté autochtone du sud de Montréal, communauté Mohawk, très connue et qui s'étend sur un assez large territoire. Il n'y a aucun échange culturel, pédagogique, quoi que ce soit, entre les deux.
Mmh.
Jamais. Je suis né dans un petit village, enfin, j'ai été élevé dans un petit village en Charente. C'est comme si on niait l'existence du village à côté à 4 kilomètres en 2023. On y viendra à la fin. Je trouve qu'il y a, sur le peu de temps que j'ai passé au Québec, sur les 3 ans, j'ai l'impression qu'il y a eu des progressions. Vous en dites, je pense, l'une des incarnations incroyables sur la cause autochtone. Enfin,
vraiment.
Il y a encore du grain à moudre, comme on dirait. Je voudrais qu'on revienne ensemble sur la question des femmes. Les femmes autochtones, aujourd'hui, c'est quoi leurs difficultés, c'est quoi leurs enjeux, c'est quoi leurs défis, et pourquoi est-ce qu'on a encore besoin que des gens comme vous s'engagent pour les défendre et essayer un peu de les aider?
C'est comme si je le vis en ce moment, puis c'est un malaise que j'ai puis que j'assume là, parce que je trouve ça comme comment je vais devoir le dire et l'aborder. D'un côté, la loi sur les Indiens va normaliser hein, la hiérarchie homme-femme, la communauté religieuse ou les communautés. Puis là, on veut pas dénoncer ou on dénonce timidement, il y a un processus de guérison Et nos communautés n'ont pas nécessairement mis en place un système de protection tant dans mes droits de personnes, de femmes, de femminous. C'est comme si on renversait toute la culpabilité, l'erreur ou le malheur. C'est à cause d'Ottawa, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de ça, c'est à cause du passé, de la violence. Ça, j'ai pas de misère à croire. Mais les femmes finissent par, pour certaines d'entre elles, que je vais croiser, côtoyer ou être mentorée par elles, vont quitter leur communauté pour être mieux. Puis ils vont aller en ville, puis rendus en ville, ils vont vivre du racisme, de la discrimination, ou on va les faire sentir mal. Puis pour certaines, malheureusement, vont se retrouver dans des situations tellement précaires ou de vulnérabilité que on les retrouve dans une annonce ou dans les médias disant ben elle est disparue, elle a été retrouvée dans une décharge dans une grande municipalité qu'on appelle Winnipeg, ou l'autre ben on va jamais la nommer jusqu'en Cour suprême du Canada, on va à peine interviewer les membres de sa famille suite à son décès violent. Puis à chaque fois, ben le Canadien qui a commis le crime, ben he's a good jack, he's a good man. Tu sais, on va vivre entre nous une violence latérale ou une omerta ou un malaise, mais il y a quand même des gens qui se lèvent, mais c'est pas comme mes sœurs québécoises, je dirais, ou le reste du Canada. Puis de l'autre côté, beaucoup de femmes autochtones full militantes qui vont être des avocates. Des gens qui ont écrit des livres ou qui ont une connaissance politique vont dire ben c'est le Canada. Il faut s'attarder et s'attaquer aux politiques du Canada, aux lois et ainsi de suite. Là, moi, je me gratte la tête puis je me dis, c'est comme si, encore une fois, on mettait de côté que dans nos propres nations, faut aussi se faire un exercice de conscience. Fait que là, les femmes autochtones, pour beaucoup d'entre elles, je ne parlerai jamais au nom de ces femmes-là, mais celles que je côtoie ou que j'observe et que je chéris ou que j'admire, ben c'est de nous rappeler que notre lutte n'est pas juste envers une loi ou contre une loi, mais sur bien des fronts en même temps. Alors, wow, quelle admiration que j'ai envers celles qui sauvent des vies dans le downtown Eastside, parce qu'il y a des morts à chaque jour, qui sont sur tous les fronts pour retrouver celles qui sont jamais revenues, ou celles qui deviennent des gouverneurs généraux du Canada, là.
On va y venir, mais effectivement, c'est, oui. Voilà, ça fait partie des choses positives, oui. et qui bougent. Ces femmes autochtones qui souffrent, qui ont besoin d'aide, vous les aidez, les associations auxquelles vous avez participé ou participez encore, comme ouais. Femmes autochtones du Québec, je crois, les aident. Concrètement, comment on les aide? Et la question sous-jacente, c'est comment quelqu'un comme moi ou quelqu'un qui écoute ce balado et qui va venir s'installer demain au Québec, comment est-ce qu'il peut leur rendre la vie, j'allais dire pas plus facile, juste plus juste?
Il y a plusieurs façons. Dans mon quotidien, moi, malheureusement, je suis pas celle, c'est correct, je l'assume là, depuis l'enquête nationale, là. C'est pas moi qui va protéger une femme d'une extrême pauvreté ou de racisme ou de violence et ainsi de suite. C'est là où faut soutenir les gens qui travaillent sur le terrain.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
L'enquête nationale, on va dire, les femmes et les familles, elles doivent être au centre des décisions ou de création de programmes et ainsi de suite. Le gouvernement fédéral, en ce moment, puis c'est toutes les provinces aussi, et les territoires, ont une responsabilité. On fait ça vite. C'est l'électorat, puis on n'a pas grand temps, puis c'est pendant notre parlement, etc. On va mettre tant de milliards, puis ils sont pas capables de me dire où est-ce qu'ils ont investi ou dépensé les milliards. Et ça devient comme, on vous a dit, et je vais vous le répéter même fois, comme vous, vous habitez à Montréal, je comprends, ben vous avez le Native Women Shelter. Vous avez ces organisations-là sur le terrain qui marchent avec des gens qui sont abandonnés par le système. Il y a des maisons d'hébergement à travers le Québec, comme ici, moi, je m'implique avec la maison communautaire Musnac à Québec pour les femmes autochtones en difficulté. Ben, ça va être ma façon de redonner. Parce que c'est là où elle s'en fout que je suis sénatrice quand je m'assois à côté d'elle. Puis même, elle sait même pas. Hein, je la vois des fois à télé. Elle s'en fout qui je suis, mais ce qu'elle va peut-être apprécier, c'est que je vais être là le temps qu'on a à pouvoir l'amener en cours, rencontrer un avocat, ou la sortir d'urgence de sa maison parce qu'elle vit de la violence, ou tout simplement lui envoyer un peu d'argent pour payer son loyer, ou prendre ses enfants temporairement le temps que la DPJ fasse. T'sais. Alors, ça va être une façon pour nous où on peut accompagner des gens. Mais vous, je pense que vous connaissez plein de familles autochtones, mais vous avez un réseau incroyable à Montréal, puis tous ceux et celles qui écoutent, partout où on habite, il y a des organisations autochtones qui, pour moi, auraient dû recevoir les milliards là, qui ont été annoncés pour sauver et accompagner des vies.
C'est vrai que je connais pas forcément énormément de personnes d'origine autochtone, mis à part celles que j'ai eu la chance d'interroger, de recevoir sur ce podcast. Et en même temps, à chaque fois que je vais dans Montréal, je les croise. Alors, les croise, entre guillemets, sans les voir, hein, de manière probablement... on va dire pas cool, parce que beaucoup d'itinérance et d'origine autochtone, voilà, puis effectivement, l'isolement en ville, on l'avait un peu effleuré avec Katia Bacon, qui je crois vit dans Montréal, mais c'est pareil, vivre sa culture autochtone, essayer de la faire vivre, et il y a souvent un âge, quand on est jeune, c'est pour tout, quand on est ado, on veut tout casser avec ses parents et pas en entendre parler, et puis passer la vingtaine, on a envie de se rapprocher un peu de ses racines, de les retrouver. C'est pas forcément facile quand on est dans un environnement urbain loin. Et puis on les croise et on pourra peut-être simplement les considérer en leur disant bonjour, Kwe. Voilà, même si je sais que c'est pas pour tout le monde, pour les Inuits c'est Kwe, mais voilà. Ça change, mais voilà, avoir un petit peu de considération. Et le rappeler que ce sont juste des humains comme les autres, quoi.
Oui. Oui.
C'est peut-être un beau programme. Il y a quand même tout ça dans un environnement qui est assez... Il y a une histoire qui est chargée, qui est dure. Et à chaque fois que je l'aborde, je suis toujours effaré par la violence de ce que ça a été et de ce que c'est encore aujourd'hui. Mais quand même, on va venir à quelque chose d'un petit peu plus joyeux, ou en tout cas engageant. Moi, la sensation que j'ai eue, je l'ai dit au début de ce balado, ma prise de conscience s'est faite avec la tragédie autour du sort de Joyce Echaquan. Et j'ai l'impression qu'on se souviendra. On se souviendra vraiment de son nom très longtemps, parce que son martyr, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, d'une certaine manière son sacrifice, même s'il était probablement pas volontaire, a permis une prise de conscience très folle. Et depuis, il y a eu, je veux dire, pléthore de signaux positifs. On en a parlé, gouverneur général du Canada a été nommée une femme d'origine autochtone, Mary Simons. Vous-même, depuis 2021, Michèle Audette, sénatrice du Canada. Le plus récent gouvernement du Québec a nommé Catherine Champagne-Jourdan ministre de l'Emploi du Québec. Et je m'arrête dessus parce que on l'a pas nommée ministre aux Affaires autochtones ou un truc comme ça. Voilà, de la même manière qu'on prend un sportif pour être ministre des Sports. Non, non, on lui a donné un poste qui était celui de l'Emploi du Québec, c'est pas un petit sujet. Voilà, nonobstant, j'allais dire, son origine autochtone. Michel Jean, on en a parlé, qui outre ses livres, on lui a quand même donné la présentation du... Parce que c'est un journaliste, avant tout un journaliste, il présente sur TVA le journal du midi, en se permettant de commencer chacune de ses éditions par couer tout le monde.
Oui.
Ce qui, je regarde sur Twitter, en chagrine encore 2-3 quand même. Voilà.
Mais c'est juste 2-3 sur les millions qui sont fiers.
Exactement. Il y a quand même un souffle qui est en train de se passer, non?
Incroyable. C'est pour nous, là, Suzy Basile, Abitibi-Témiscamingue, l'université du Québec, là, dans ce territoire, elle est professeure, puis c'est la première femme atikamekw à avoir un PhD. Pour moi, là, c'était comme... Puis Suzy, sa maman, fait partie des femmes qui ont fait femmes autochtones du Québec là, à l'époque de ma mère aussi. Donc, on est comme Obélix, là, on est tombé dedans là, quand on était petite là, dans le mouvement des femmes autochtones. Et pour moi, là, elle venait là, de « Enfin, on a une PhD ». C'est comme « Aïe, aïe, alors t'es Québécoise, ben bravo, on est fiers. » Et là, ça commence, puis tranquillement, on a des femmes en politique. « Ah oui, mais pas à la tête d'organisations comme l'Assemblée des chefs. » Jusqu'au moment où Rosanne Archibald, qui était en politique pour l'Ontario avec les Premières Nations, se lance pour l'Assemblée des Premières Nations. Nous, on est sollicités, on est 5 femmes autochtones. On nous dit là en privé, si tu te présentes, on va t'appuyer. Puis on s'est comme dit, elle qui est vraiment intéressée et courageuse, on va aller l'appuyer. Mais j'y croyais pas. Elle gagnera pas, on n'est pas là. J'ai longtemps voulu me présenter à l'Assemblée des chefs du Québec, là, Labrador. Les Premières Nations, les chefs sont pas prêtes, même si on me sollicite. Je dis, non, on n'est pas là. Et là, j'étais heureuse de me tromper. Notre première femme à devenir chef national. Après ça, on a Ganawagé, première grand chef, votre voisine, qui est deux esprits en plus, à devenir grand chef. Oui, c'est pas un gouvernement Mohawk qu'on va me dire, là, l'approche traditionnelle. Reste que c'est ça qu'elles ont, là, cette communauté, les personnes et les maisons longues aussi. C'était comme, wow, je touchais plus à terre. Et après ça, Mary Simon, elle, là, j'étais rendue complètement ailleurs. Je disais, enfin, à plusieurs endroits, des femmes autochtones qui vont être à Hawaï, pour le plus gros télescope, qui travaille en lien avec la NASA et le Canada. Une famille nous de Machtoyach! Alors, je suis comme célébration pour moi. Puis ça m'a fait du bien parce que Joyce, quand elle nous a quittés, ça m'a ramené dans la noirceur que j'ai connue pendant l'enquête nationale à recevoir toutes les violences puis les injustices. Joyce nous ramenait ça encore. Et là, Joyce nous a donné un souffle, je pense, pour dire ces femmes guerrières-là, là, ça a été tough, mais elles sont à leur place aujourd'hui. Ça durera le temps que ça dure. Puis là, on a une femme chef chez les Naskapi. C'est du jamais vu à Kawawashkimak. La grande chef pour le peuple Cree au Québec, c'est du jamais vu. Première femme grand chef. Alors, je me suis dit, 2021 puis 2022, pour moi, c'était, et ça va être dans mon livre d'histoire, l'histoire des femmes autochtones au Québec.
C'est ça, hein, parce que c'est à la fois... Les communautés autochtones qui accèdent au pouvoir, ou enfin là où ça décide, et en même temps, ce sont des femmes. C'est-à-dire que c'est deux révolutions qui se font en une, Ouais. De tout temps, les communautés sont reconnues, mais on met d'abord des hommes, et puis après, on fait des lois, machin, pour qu'en face, on reconnaisse qu'il n'y a pas que des hommes dans la vie, il y a aussi des femmes. Voilà. Et là, les deux se sont faits d'un coup, et c'est ça qui me donne de l'espoir en me disant, ça va vite. Je reviens sur Mary Simons, parce qu'il y avait eu quelque chose aussi d'assez, qui m'avait amusé parce que je trouvais ça malin pour le coup. Quand Mary Simons a été nommée gouverneur général du Canada, c'était un poste très important. C'est un choix au Québec qui a été pas mal critiqué parce que normalement, si je dis pas de bêtises, je crois que la charte ou la constitution, n'importe quoi, impose au gouverneur général du Canada d'être bilingue. Et il se trouve que Mary Simons ne parle pas ou ne parlait pas français. Donc, ils ont dit, elle est pas bilingue. Bah, si, elle est bilingue. Elle est bilingue parce qu'elle parle parfaitement anglais. Et il se trouve qu'elle parle parfaitement aussi sa langue autochtone dont j'ai oublié
le nom.
Voilà. Et ça a rappelé à tout le monde que, il n'y a pas que le français et l'anglais. Il y a d'autres langues.
Voilà.
Et qu'on peut être bilingue sans parler soit l'anglais, soit le français d'ailleurs. Et d'ailleurs, on pourrait même être bilingue sans parlant aucune des deux. C'était juste une petite pique. Mais je trouve c'est assez maligne pour dire, regardez, il y a une autre réalité, il y a une autre dimension. Faut pas l'oublier.
Et moi, dans mon livre à moi, elle est bilingue. Elle est bilingue. C'est de rappeler aussi, puis on le fait. Je l'ai vécu à l'enquête nationale. Je devais pleurer, rire, débattre en anglais, m'ostiner en anglais ou questionner en anglais ou réfléchir juste en anglais. J'étais une minorité. Alors, je comprends que parce que je suis une minorité, on met moins de ressources autour de moi pour être sûr que c'est équitable. C'est peut-être pas égal parce que on n'était pas beaucoup dans les 200 employés. Et là, quand moi j'ai vu ça, j'ai dit je vous comprends. Donc je suis sûre moi que on va mettre en place si Mary Simon vient à Québec des gens qui vont pouvoir interpréter ce qu'on dit et ce qu'on fait de part et d'autre. Mais le reste, là, c'était comme, dans mon livre à moi, il y a plus de 60 langues qui ont pas été sollicitées lorsque deux personnes et plus autour d'une table ont dit, au Canada, c'est juste le français puis l'anglais. J'étais pas là. Mes ancêtres étaient pas là. Pour dire, non. Vous dites un mot inou à tous les jours. Québec. Ça veut dire débarquer. Débarquer de vos bateaux pour cette période-là, lorsque Champlain est arrivé, des Inuits ont dit Québec. Alors, vive l'enquête nationale, j'ai été dans les archives, des professeurs de l'Université Laval m'ont donné de l'information, il y a des livres là-dessus, je suis pas folle, je savais, je me disais que ça ressemblait à de l'Inou. Eh oui!
Oh, c'est bien. Vous devriez voir son sourire. Le sourire de Michel Audette au moment où elle dit ça, franchement, voilà, c'est incroyable. Québec, c'est un mot inou et on le parle tous les jours. Plati pas que je viens d'apprendre que je suis trilingue. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Camus. Enfin, je crois que c'est Camus. J'espère. Je vais me faire descendre en flamme si je me suis encore trompé. En tout cas, la phrase, j'en suis sûr. Mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde. J'aime beaucoup cette phrase parce que je m'attache beaucoup au choix des mots. On en a parlé dès l'introduction ensemble de ce balado. Vous êtes sénatrice aujourd'hui. Vous êtes l'une des sénatrices. Vous n'êtes pas première ministre et tout ça et tout. Donc, vous pouvez pas tout faire toute seule non plus. Mais vous êtes quand même sénatrice. C'est pas anodin. On est en 2023, on enregistre cet excellent podcast le 17 avril. À minima, sans parler d'abrogation, même si ce sera peut-être pas forcément de mauvaise idée, mais quand est-ce qu'on peut envisager que la loi sur les soit à minima renommée, qu'on enlève cette insulte? Ou cet anachronisme, c'est plus un anachronisme. Enfin, au départ, c'est juste un mec qui s'est planté de route, qui pensait arriver en Inde et qui est arrivé en Amérique. Et donc, il a cru bonnement qu'il rencontrait des Indiens. Non. Ça, c'est compréhensible. Quand au bout de 3 jours, il a compris qu'il n'était pas en Inde, il a continué à les appeler des Indiens. Je donne souvent l'idée, c'est comme si moi, il y a quelqu'un qui rentre à la maison, qui sonne, qui me dit « Bonjour Jean-Pierre ». Ah non, on dit « Mais moi, je m'appelle Jean-Michel ». Ouais, mais moi, je vais t'appeler Jean-Pierre. Il y a un moment donné, au bout de, je sens que je vais lui mettre des bofs. Voilà. Quand est-ce qu'on peut envisager de changer ce nom-là, peut-être même d'arrêter de parler de réserve et de trouver un mot
J'ai jamais posé la question, mais c'est intéressant. J'ai pris des notes et je vais m'informer. Je fais partie du comité peuple autochtone au Sénat et on travaille, on étudie beaucoup la loi sur les Indiens et voir les tentatives là, avec la bibliothèque du Parlement si des gens ont essayé de renommer. Je sens que les analystes ou les politiciens vont dire « Well, eh bien, vous vous entendez pas sur autochtones, Première Nation, Premier Peuple, Métis, etc. » Donc, on dérange pas ce qui dérange trop. En même temps, je sais que le gouvernement fédéral, lorsqu'on dénonce, ils vont pas changer, ils sont pas proactifs. Et c'est jadis, dans le temps de Paul Martin, ensuite avec M. Harper, et maintenant avec M. Trudeau, les gouvernements là, qui passent là, on va changer la loi s'il y a une décision de Cour suprême. C'est coûteux, ça. Mm-hmm. C'est long. On a le temps de mourir deux fois.
Oui, c'est ça. Il peut se passer quelques générations.
Ah oui. Alors ça, c'est comme au play. Et de l'autre côté, on va avoir entendu des anciens grands chefs qui ne sont plus grands chefs aujourd'hui. Moi, je veux garder la loi sur les Indiens. C'est ce qui me définit dans mon transfert d'argent du fédéral à ma communauté. Ouf, j'ai déjà entendu des jeunes dire, qui sont moins jeunes maintenant, là, mais peut-être qu'ils le disent pas, c'est grâce à la loi sur les Indiens que je suis un Indien. Donc, il y a une pédagogie qui est pas faite de notre part, puis qui est pas soutenue par le fédéral pour dire, avec FAC, c'est ça qu'on faisait, femmes autochtones, de la formation pour déconstruire les mythes ou les préjugés ou les idées ou la « Ah, c'était ça finalement la loi ». Mais il faudrait que ça soit systématique à chaque année dans les écoles québécoises et canadiennes, bien sûr, sur les vrais contenus autochtones d'il y a longtemps jusqu'à aujourd'hui.
Ça, c'est...
C'est parce qu'on a envie de le faire qu'on va appeler quelqu'un pour se payer une formation, mais imaginons, les universités le faisaient dans tous les cours. T'es obligé d'avoir Autochtone 101. Et après ça, dans ton programme, dans ta spécialité, ben, on va venir te nourrir de sagesse autochtone, mais aussi de gens scientifiques autochtones contemporains, là. Mais ça, c'est mon monde de caribou à licorne.
En tout cas, j'avais pas forcément conscience, effectivement, des freins qu'il pouvait y avoir au sein
de nous,
des Premières Nations. Moi, c'est le terme que j'apprécie le plus de tous les Premières Nations parce qu'il y a première. C'est bien de replacer dans l'histoire. Et puis, il y a le mot nation. Et quand on parle de nation,
Vous avez raison ici parce qu'elle ne s'applique pas aux Métis, la loi sur les Indiens, et ni aux Inuits.
OK.
Juste aux Premières Nations.
Ben c'est le terme que j'ai le plus, mais j'avais pas conscience qu'effectivement, qu'au sein même des Premières Nations, il pouvait y avoir des gens qui disent non, on touche pas à la loi sur les Indiens et on garde la terminologie parce qu'elle me définit. Alors, je vais faire un parallèle parce que ça me rappelle quelque chose qui m'avait choqué à l'époque dans une autre vie. Attention, le parallèle peut être un peu maladroit, mais vous qui m'écoutez, vous me connaissez, il y a aucun grief. Mais j'ai travaillé dans une autre vie pour les Jeux Olympiques. Pour l'organisation des Jeux Olympiques à Paris, quand on les a d'ailleurs perdus en 2012. Comme quoi, pariez pas toujours sur moi, les amis. Des fois, on paume. Et je faisais partie de ceux pour qui ça semblait évident, mais alors évident, qu'il fallait arrêter d'organiser les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, et qu'il fallait faire les Jeux Olympiques, avec évidemment des compétitions, des catégories paralympiques. Mais moi, je voyais très bien le 100 mètres fauteuil, par exemple, se dérouler 5 minutes avant ou 5 minutes après le 100 mètres du Usain Bolt où il va exploser, voilà. Parce qu'il me semblait évident que ces athlètes-là méritaient, comme tout autant les autres, la même exposition médiatique, ils méritaient d'avoir 80 000 personnes dans un stade qui les applaudissent parce que les exploits sont les mêmes. Et ça me semblait une évidence. Et en fait, les freins à cette idée de fusion, je les ai d'abord trouvés effectivement à l'époque au sein des athlètes ou des organismes, ces organismes d'ailleurs que les athlètes en général, plus des organismes qui disaient non, c'est pour ça que ça m'a rappelé ça, parce que c'est le premier mot. Moi, cette organisation à part, elle me permet de me définir. Elle me permet d'être reconnu, de savoir qui je suis et d'avoir une identité propre et forte. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve qui est complexe. Je comprends, j'ai du mal à appréhender et en même temps, je comprends parfaitement ce qu'il veut dire. Ouais. Ça doit être un sacré boulot. Je comprends. Votre boulot doit pas être simple tous les jours.
Non, pas du tout. Non. Puis on a du monde dans notre milieu qui vont prendre les micros puis dire « Défaites-vous de la loi sur les Indiens! » Des gens que j'admire, puis là, je suis comme « I wish, j'aimerais ça, j'espère. » Mais il y a une complexité qui est difficile à défaire à certains endroits. Puis, évidemment, si moi, j'étais chef de ma petite communauté, là, mettons, c'est l'espace de mon bureau, là, puis qu'on me disait, bon, ben Michel, à partir de maintenant, là, t'as plus de doigts sur les Indiens. Ah, j'ai quoi? Le danger, c'est que je vais devenir une petite municipalité au Québec où juste le français est reconnu. Je vais être obligée de tout prendre ce qu'on m'oblige de prendre dans les juridictions dans lesquelles l'éducation, c'est le Québec, mais le code XY, c'est le fédéral. Donc, je deviens assimilée au max. Alors, je veux pas de loi sur les Indiens, mais je veux une loi qui me définit, me protège et me permet de cohabiter puis de co-gérer les ressources pour ne plus dépendre des taxes de tout le monde et des impôts, mais de payer mon gouvernement, mes infrastructures, mes ressources et ainsi de suite. Puis si je suis pas la bonne chef, qu'on me flush pour un autre et que je mets en place des processus dur pour lequel il y a des protections de droits de la personne et des droits collectifs. La 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 la.
Je réfléchis.
Donc, il faut une loi sur l'autonomie gouvernementale.
Ouais, c'est super intéressant parce qu'en fait, je m'en étais pas rendu compte. Si on ne la remplaçait pas par quelque chose, la simple suppression de la loi sur les Indiens, ça serait presque l'avènement, la consécration de la loi sur les Indiens qui visait l'assimilation des communautés autochtones et entre guillemets leur disparition, voilà, leur fusion dans le Québec. Bon Dieu que c'est compliqué, que j'aimerais pas être à votre place.
Donc, si des gens se plaignent que de temps en temps on ralentit un trafic parce qu'on fait de l'éducation ou de la mobilisation ou on a une position pour faire valoir nos droits, c'est temporaire dans la vie du citoyen ou de la personne, là. Mais c'est parce que des fois, c'est juste ce qui nous reste pour se faire entendre.
Vous le voyez comment, l'avenir? Positif? Radio?
Comment je vois l'avenir? Voici un petit exemple. Le train qui faisait de moi une sauvage, mais je suis moitié québécoise, mais à cause de mes yeux bridés un peu, puis mes cheveux foncés à l'époque, puis l'été, on est basané, ben on me renvoyait chez les sauvages, même si j'étais moitié québécoise. Le train, aujourd'hui, ma nation et les Naskapi, deux belles nations, sont propriétaires du train. On crée de l'emploi et on n'a plus de ségrégation et on rit entre nous autres. Nous autres qui est Québécois, Némite, Labrador, Première Nation, et ainsi de suite. Ça, pour moi, là, l'avenir, c'est que dans nos processus de guérison, de réappropriation, fait en sorte que on se redonne cette fierté-là qu'on nous a enlevée. Déshumanisée. Vous avez parlé beaucoup de ça au début. La colonisation nous a déshumanisés. Et là, tranquillement, on réveille notre petit humain, enfant ou la personne meurtrie à reprendre sa place puis à être fière. Puis moi, là, mon avenir, là, tête d'orignal comme je peux être, là, ou tête de cochon du côté québécois, là, tête dure, je veux, avant de partir sur la terre, là, qu'on ait notre propre université au Québec par et pour les premiers peuples. Une université qui va être ouverte à vous, gens d'ailleurs, gens d'ici, où on va arrimer le savoir millénaire le savoir d'aujourd'hui avec les sciences occidentales. Alors, les prochaines infirmières et infirmiers qui vont accueillir des Joyce Echaquan vont pas penser qu'elle est toxicomane ou narco-dépendante, mais qu'elle est peut-être tombée en quatre roues quand elle est allée à la chasse au porc-épic, ou elle a glissé sur une glace noire comme moi il y a 3 semaines. Ouch, ça a fait mal.
Ah oui.
Alors ça, c'est mon ambition et mon plaisir et mon bonheur de rêver qu'on y a droit.
L'ambition, l'envie, le plaisir d'une fière québécoise.
Et nous aussi.
Et nous aussi. Mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. C'est qu'il y a tout. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est tout ce que je vous souhaite à vous, ce que je souhaite aux communautés, ce que je souhaite au Québec. Puis, c'est mon côté Miss France, c'est un peu ce que je souhaite au monde. Le monde serait tellement plus chouette. Michel Odette, je vous remercie, mais alors, vous imaginez pas à quel point je vous remercie de ces presque 57 minutes passées ensemble. C'était d'une richesse dingue, j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que les gens qui nous écoutent en ont appris encore plus. Bonne continuation, bon courage, et je vous souhaite de pouvoir afficher de plus en plus souvent le même sourire que vous avez affiché tout à l'heure quand j'ai vu, c'était absolument incroyable. Merci beaucoup.
Merci, puis allez au powwow à Kanawagé.
Je compte bien y aller.
Il y a un beau powwow.
Je compte bien y aller, promis. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Et voilà, Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Bah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants, tout ça vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancée très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh bien, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu frette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tirer ou quoi que ce soit. Donc, fais-tu frette à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com. Bah, j'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu frette, FAISTUFRE2TE, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.